Alright, il est 7h56, Catherine Bachand qui est là en remplacement de Denis Gravel vient de faire son entrée en studio. De ce que je comprends, c'est que son samedi va être aussi tranquille que le tien, Max.
Ah oui?
Pour la Saint-Valentin. Là.
Mais
vous pourriez peut-être faire un souper.
Un souper, faites un tête-à-tête.
Saint-Valentin, toute la gang de Leclerc Communication.
Tous les célibataires.
Là, tu parles-tu de Denis ou de moi là, pour
de
la
toi?
Saint-Valentin? OK, je pensais que tu parlais encore de Denis.
Non, Denis est follement amoureux encore.
Exact. C'est important de le dire.
Oui.
Mais c'est ça. Samedi, ça va être une belle soirée, vous autres, vous deux? Tu vas pouvoir l'amener au karaoké, ça, là?
Ouais. C'est vendredi. Si tu veux venir vendredi au karaoké, moi, je suis tout le temps là. Puis samedi va être tranquille.
Ouais. Karaoké.
Mais sinon, il y a des bars, tu sais, ils font tout ça à cette heure, faire des codes de couleurs avec les bracelets à Saint-Valentin, là. Fait que tu vas là le samedi soir, puis là, si t'as un bracelet vert, t'es célibataire. Si t'as un bracelet jaune, c'est compliqué. Puis si t'as un bracelet rouge, c'est que t'es pris. Mais si t'es pris, je sais pas ce que tu fais au bar à Saint-Valentin, là.
Ouais, mais il y en a qui ont des conjoints, des conjointes dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres provinces.
Ouais, OK. Ouais, dans ce cas-là, c'est correct.
Il y a ça. Catherine, les Jeux olympiques de 2002, toi, t'as-tu milité pour ça à Québec?
J'ai pas milité pour ça, mais je me souviens d'avoir couvert toute cette histoire-là, c'est certain.
C'était la folie, hein?
Mais il y avait une belle chanson aussi, les Jeux, nous on les veut. Puis,
c'est pour la jeunesse de notre ville.
Puis, là, tu fais appel à ma mémoire, là. J'ai pas trop fouillé dans mes souvenirs, mais si ma mémoire est bonne, il y avait comme un comité qui attendait, puis on était tellement certains qu'on allait nous offrir une candidature, puis pouette, on n'a comme même pas été considérés. Il y avait des gens avec des foulards, puis qui étaient
Il y a eu de la collusion.
Ils
se sont fait offrir des cadeaux.
J'étais mon carré d'Youville, puis quand le gars a dit « Salt Lake City », le cœur me faisait en vain.
On était là, il y avait la gang de TQS dans le temps, j'ai des images dans ma tête de José Turmel qui couvrait l'événement, puis là, la déception.
Le silence qu'il y a eu à ce moment-là. Toi, tu y crois-tu encore quatre bâchons aux Jeux olympiques?
Le maire, il veut ça, là. 2042, 2046.
Moi, je disais à Yannick Marceau tantôt que j'y crois plus que jamais parce qu'on a plein d'infrastructures sportives maintenant.
Bien, mais on n'a toujours pas de montagne.
C'est toujours la problématique.
C'est notre enjeu. On n'a toujours pas de montagne, puis on ne peut pas en inventer une montagne. Fait qu'il faut absolument qu'on s'organise avec une autre ville qui a une montagne. Ben là, écoute, si tu regardes comment ça se passe du côté de l'Italie actuellement, on est tellement éparpillés sur différents sites, c'est fort possible. Mais, tu sais,
il y avait Lake Placid aussi.
Oui, c'est sûr, mais là, c'est deux pays.
Oui, sauf que je jette la Coupe du monde de soccer cet été, de football, devrais-je dire, cet été 2026. Canada, États-Unis, Mexique. Pour justement répartir les coûts.
Ça se fait. Selon Max, en 2042, on va être rendu un pays. Il va y avoir Paul Saint-Pierre Plamondon qui va être le président de la République. Fait que là, ça va être Québec, ça va être Canada, puis ça va être les États-Unis. C'est assez particulier.
Mais tu sais, pour avoir vécu les Jeux olympiques de Vancouver à Vancouver, parce que j'étais allée là-bas pour couvrir ça d'un point de vue journalistique.
Ah, wow!
Tu veux ça dans ta ville.
C'est clair, hein?
Sincèrement, là, tu veux ça dans ta ville. Tout le monde va chialer. Tout le monde va s'arracher va arracher sa chemise.
Ça va coûter cher.
Ça n'a pas de bon sens. Les programmes sociaux, les expropriations, les itinérants d'un point de vue environnemental, tout, c'est l'enfer. Pendant les mois et les années qui précèdent. Et là arrive la flamme et tout le monde se tait. Et tout le monde porte un drapeau. Et tout le monde est incroyablement fier de ce qui
se passe. Parce que c'est exceptionnel,
C'est exceptionnel d'avoir les Jeux dans sa propre ville. T'sais, je veux dire, j'habitais pas Vancouver, mais je l'ai couvert, t'sais, j'étais là. Puis de te promener, t'es même pas obligé d'avoir des billets pour pouvoir aller vivre un événement sur place, parce que c'est pas toujours facile à avoir. Chaque restaurant, chaque café, chaque pub a une télévision et tout le monde suit les compétitions au fur et à mesure. Puis là, je te le compte, puis j'ai encore les gros frissons.
Je veux ça.
Vous connaissez en 2010 l'histoire de Joanie Rochette qui a perdu sa maman en arrivant. Et moi, j'avais perdu ma maman quelques jours avant. Et j'étais quand même allée au jeu, couvrir les jeux, puis on a fait les funérailles au retour. Alors, je suis d'une fébrilité folle. J'ai pas besoin de vous dire tout ce que ça m'a fait vivre, l'histoire de Joanie. Et Joanie a patiné et... elle a remporté la médaille de bronze, hein, si ma mémoire est bonne. Cette fois-là, je m'excuse si mes souvenirs font défaut. Puis je suis dans un bar, puis tout le monde a regardé ça. Et on l'a vu patiner, on l'a vu remporter la médaille de bronze. Et on a vu même la cérémonie de remise des médailles sur le coup. Il y a quelqu'un qui s'est installé au piano qu'il y avait dans ce bar-là et a joué l'hymne national canadien.
Wow.
Pour Joanie Rochette, parce que c'était pas elle, qui, c'était pas son hymne national. Ouais. Mais tout le monde suivait ça tout le temps. Vivre les Olympiques, je vous le dis, là, tout le monde veut avoir ça dans sa ville.
Ouais. J'en doute pas.
Quand c'est là.
Hey, 2042, c'est dans 16 ans, je vais avoir 62 ans, je vais être à retraite, je vais pouvoir me promener partout.
Tu vas être bénévole.
Je vais être bénévole, oui!
Moi, j'avais eu une petite déception quand on les avait pas eus parce que j'y croyais, j'étais jeune tout ça. Là, en tant que payeur de taxes, je regarde ça aller, je regarde nos infrastructures, je me dis on aurait peut-être d'autres priorités avant.
C'est ça.
Je me souvenais d'une entrevue qui est disponible sur YouTube entre M. André Arthur et M. Walter Siebert. Ou Cyber, je ne sais pas trop comment il s'appelait. Là. Mais lui, à l'époque, il était vice-président des sports pour la candidature olympique de Québec. Et il parlait avec Arthur. Puis là, on n'a pas de montagne pour, ouais. Une discipline comme le ski. Puis là, le monsieur Cyber, il s'était patenté une affaire. C'était dans le coin du massif de la petite rivière Saint-François.
Il jackait à montagne, lui.
Puis là, il jackait à montagne. Puis là, les athlètes arrêtaient dans le milieu du fleuve. Où là, on installait des estrades dans le milieu du fleuve au grand vent. C'était une entrevue, c'est du bonbon. Pour ce qui est ceux qui veulent en apprendre plus sur les techniques d'entrevue, là, c'est une entrevue de 4 minutes 20. Puis André Arthur détruit Walter Siebert. Mais je vais vous faire entendre juste la finale où Walter Siebert est super positif par rapport à son plan. Puis M. Arthur l'est peut-être un peu moins, comme il avait l'habitude.
Le service médical, effectivement.
Après une salle de presse?
Absolument, les estrades pour la presse, pour les chronométrages, les entraîneurs, etc. Tout sera là. Okay.
Pour les officiels, il y aura des estrades chauffées.
C'est-à-dire, les estrades chauffées, vous savez, ils vont se trouver à l'intérieur de cabines.
C'est ça, mais sur le fleuve?
Sur le fleuve, oui. Partir du fleuve, vous allez voir à peu près les dernières 30 secondes de la course.
Avez-vous idée du temps qu'il fait à cet endroit ce matin? Il fait probablement moins 50 degrés.
40 du matin. Ouais.
Ben oui, c'est ça. Les spectateurs auront accès au site comment?
Par train.
Pardon? Donc, vous allez aussi construire une gare ferroviaire?
Disons, une gare, oui, mais une gare, ça peut être quelque chose de très simple. Quelques débarcadères et ça finit là.
Donc, par en haut, la route proposée à travers la brousse, elle va servir à quoi?
Ça, c'est surtout pour les athlètes et les officiels.
Et donc, l'athlète qui a descendu pour remonter, vous allez lui construire un monte-pente?
Oui, monsieur.
Et ça va durer combien de temps, cette compétition de descente pour hommes?
Ça se fait en une journée.
Tout ce que vous venez de nous décrire ne sera donc utilisé que pour les entraînements et une compétition qui durera une seule journée?
Oui.
Monsieur Cyber?
Oui.
Êtes-vous fou?
Hey, je m'en rappelle. Êtes-vous fou?
C'était incroyable.
Oh, wow. Magnifique.
On va se le dire, c'était incroyable. Mais toi, t'aimerais ça, 2042, 2046?
Écoute, j'ai pas de plan. Je te parle juste d'émotion. Je te parle pas de raison. Hey, là.
Rêvons, Yannick. Rêvons.
J'ai pas de plan. J'ai pas de chiffres. J'ai pas de coûts environnementaux ou whatever. Je te parle juste avec mon cœur.
Ouais. Il nous reste juste une montagne puis une piste de bobsleigh.
Même pas. On partage. Moi, j'ai rien contre partager.
Ben non.
On fait ça Québec, Montréal, même Toronto.
Ben, tu sais, à Vancouver, là, la montagne, c'était Whistler. C'était à plus de 2 heures
exactement.
De route. Là. C'était pas dans la ville
Lake
même.
Lake Placid, c'était à 4 heures de route. Là. Écoute, c'est à côté.
Je garderais ça au Canada, par exemple. Je suis prêt à partager, mais à l'intérieur de mon Canada.
Ben, c'est parce que...
Pardon?
Mais là, c'est ton Canada ou t'es pas souverain?
Ben là, c'est le... La gang joue au hockey à 10h40 tantôt.
Je l'ai dit tantôt, je suis Canadien pour une semaine et demie.
Il faut 2 ans, là.
Une semaine et demie.
Dans la publicité qu'on voit pendant les Jeux, où est-ce que c'est Stan? Et dis-toi qu'il sort tes drapeaux du Canada aux 2 ans, c'est toi,
ouais,
là.
Ben,
ça, là.
Même pas juste l'hiver.
Juste l'hiver.
Fait qu'aux 4 ans.
C'est un gars de même. C'est un gars de même. Mais bref, le maire y pense. Ça a surpris beaucoup de gens de la communauté d'affaires à Québec. À savoir si les gens de Québec voudraient qu'on embarque là-dedans. Je sais pas. On est tous un peu fessés des Jeux olympiques de 2002. On était... Ouais. Très déçu. Ça va dépendre du coût aussi. Sochi était autour de 70 milliards. Les jeux qu'on a là actuellement, c'est autour de 10 milliards. Je trouve que 10 milliards, ça a du sens. Là.
Oui, ben, ça commence à être plus raisonnable, là, c'est sûr. Puis ben, il y a de l'argent qui vient de beaucoup aussi d'ailleurs.
Les retombées économiques sont majeures.
Oui. Puis après ça, ça reste à voir. C'est parce qu'une des choses qui faisait en sorte que c'était extrêmement dispendieux aussi d'avoir les jeux, c'était les infrastructures qui demeurent. Là, après ça, il faut que tu les entretiennes.
Ouais.
Parce qu'on parle du stade olympique à Montréal. Il
ouais.
faut que tu les entretiennes. Mais là, on a de plus en plus d'infrastructures temporaires parce qu'on a connu ça dans d'autres jeux. Fait que là, ça permet aussi de sauver sur des choses que tu n'as pas à entretenir à long terme. Mais ça fait aussi en sorte que tu ne gardes pas de centres d'entraînement nationaux chez toi. Il y a des bons et il y a des mauvais côtés.
Toute l'Est du Canada a besoin d'un centre d'entraînement à l'Est. On va se le doter à Québec.
On pourrait faire ça.
Catherine,
autre sujet, on a appris une mauvaise nouvelle hier pour des collègues de TVA qui perdaient leur emploi. C'est d'une tristesse. Puis, par le fait même, ce matin, j'ai vu Marie-Christine hier dire « je perds mon emploi, je vais avoir des belles choses à réfléchir cette semaine. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire et tout ça. » Ça crée beaucoup d'angoisse. Puis, ce matin, il y a des statistiques qui sortent concernant les Québécois et l'information. Tu es une journaliste, toi, dans la vie, c'est ton travail. C'est 58% des gens qui s'informent de l'actualité sur Internet. Puis oui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir quelque chose de qualité, mais il peut aussi y avoir de la grosse merde. Mais de savoir que presque 60% des gens s'informent quotidiennement de l'actualité sur Internet, je trouve ça inquiétant.
Mm-hmm. Bien, surtout quand tu sais que les réseaux sociaux ici au Canada ne diffusent pas de sites de nouvelles. Fait que ce que tu vas avoir, ça va être des créateurs de contenu.
Il y a ça. Mais c'est comme j'expliquais, moi, les créateurs de contenu, j'ai pas de trouble avec ça. Si le gars a un doctorat en psychologie puis me parle d'un sujet qui touche la psychologie,
oui.
je vais être plus apte à tendre l'oreille puis me dire, OK, ben tu sais, je peux me faire une tête sur le sujet parce que le gars, c'est un professionnel dans son domaine.
Mais quand tu es un actuaire puis que tu commences à me parler que tu es un expert en microbiologie en temps de pandémie, ça se pourrait que je décroche.
Je décroche. De ces 60%-là, des internautes qui s'informent sur l'actualité sur Internet, il y en a plusieurs qui vont sur les médias traditionnels aussi. C'est presque la moitié. Fait que ça, tu sais, il y a quand même une personne sur deux qui vont voir ailleurs, voir si les nouvelles qu'ils ont eues, ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Les 18-34 ans sont la seule tranche d'âge à s'informer davantage sur une base hebdomadaire. C'est 41% sur une base quotidienne, c'est à peu près 31%. Mais quand même, c'est au moins les gens s'informent, là, à savoir s'ils s'informent bien. Ça, c'est une toute autre histoire. 44% des participants ont une forte confiance envers les médias. Il y en a qui vont dire 44, c'est pas si pire, mais il est toujours bien 60... Mm-hmm. Il est toujours bien... Attends, j'essaie de calculer. T'sais, le reste, en fait...
56%.
Ben voilà. 56% des participants, eux, n'ont pas confiance aux médias. 56.
Ouais.
C'est 6 personnes sur 10 qui n'ont pas nécessairement tout à fait confiance envers les médias.
Je suis pas très surprise de ça, si tu veux mon avis. Okay.
C'est dû à quoi?
Ben, un mélange de choses. Puis j'ai l'impression qu'il faut qu'on se regarde, nous aussi, en tant que médias. T'sais,
j'aime ça.
Dans le sens que c'est M. Landry qui disait « Le public ne se trompe jamais ». Au final, c'est peut-être aussi parce que ce qu'on offre en information, alors qu'on a de plus en plus détourné notre intérêt et qu'on va aller financer autre chose que l'information, parce que, trompez-vous pas, là, c'est très, très, très cher faire de l'information. C'est extrêmement dispendieux. Tu vas avoir un journaliste qui va travailler des mois pour une histoire. Fait que c'est très, très, très cher à faire. Puis là, ben, on est de moins en moins en train de financer le journalisme. Fait qu'au final, on offre quoi comme produit qui vaille la peine qu'on puisse l'écouter? T'sais, tu parles de la tranche des 18-34 ans, là, c'est l'âge de mes filles. Là.
Ouais.
Puis de par mon métier, je pense qu'elles sont renseignées plus que la moyenne des personnes de leur âge. Ceci étant dit, elles sont pas très, très branchées sur les médias d'information parce qu'au final, ce qu'on présente, ça ne les rejoint pas, ou du moins pas encore.
Fait que ton média de s'adapter, c'est ce que tu mentionnes.
Ben moi, je pense que oui. Okay. Même principe que quand il est question de la télévision, les jeunes sont plus là. Puis tu sais, je veux dire, tout ça fait partie, ça englobe la culture, là. Si les jeunes vont ailleurs, c'est peut-être parce qu'ils se retrouvent dans autre chose que ce que nous, on leur offre.
Okay. J'ai le goût de te poser une question piège. Est-ce que c'est négatif de suivre l'actualité?
Très.
OK. Est-ce qu'on a déjà essayé un journal positif qui a bien fonctionné?
Bonne question, je ne sais pas.
La réponse, à un moment donné, il y avait la bonne nouvelle du jour.
Oui, ouais, la bonne nouvelle TVA.
Tout le monde s'en sacrait.
J'aimerais
ben
ça.
Oui, mais la bonne nouvelle TVA, c'était un truc commandité. Là.
Ouais.
C'était qu'un client qui payait pour faire parler de lui.
Ouais. Mais tout le monde s'en sacrait. Si tu regardes les bonnes nouvelles, là, mettons que tu réussis à avoir les statistiques sur le Journal de Québec, Journal Le Soleil, la presse et tout ça, c'est jamais dans le top 10 des meilleures nouvelles de la journée.
Non, parce que là, ça va être des clickbait qui vont attirer l'attention.
Oui, c'est ça. Ça fait peur des fois. Puis j'avais cette discussion-là avec Jean-François Racine du Journal de Québec. Un papier qui va avoir coûter, je sais pas moi, 10-15 000 $ à faire parce que ça s'est fait sur plusieurs semaines,
ouais.
Ben tu vas avoir, puis là, je dis n'importe quoi, là, tu vas avoir 1000 clics. Mais un chat qui se fait frapper, ouais, sur la première avenue, tu vas avoir 28 000 clics. Mais c'est quoi qui est le plus pertinent pour les résidents de Québec?
Ouais.
C'est l'enquête qui va être réalisée sur un sujet X, tu sais. Mais les gens vont être plus portés à cliquer sur le chat qui s'est fait frapper. Puis, fait, demandons-nous pas des fois pourquoi les grands patrons disent « Ah, c'est peut-être un peu trop cher, ces grosses enquêtes-là. » Mais Caroline, on en a de besoin.
Oui.
Puis, pour ce qui est de la population en général qui s'informe uniquement avec des influenceurs, c'est pas si pire. C'est une personne sur cinq. Mais chez les jeunes de 18 à 34 ans, c'est 4 personnes sur 10, 42 %. C'est 42 % des gens qui s'informent juste avec des influenceurs. Fait que toi, tu fais occupation double, t'as le même impact que le gars qui est à télé, qui fait ça de sa vie, qui parle du factuel.
Mais en même temps, les influenceurs, c'est devenu un incontournable. Maintenant, il faut que tu choisisses. Tu sais, quand tu as Pierre Poilievre qui est allé pendant la campagne électorale au micro d'Olivier Primeau, c'est parce que tu dis que ça devient un incontournable. Tu sais, c'est rendu qu'ils le savent, les politiciens, ouais, l'importance que ça peut avoir.
Mais c'était Pierre Poilievre. C'est Olivier Primeau me disait pas, il me parlait pas de factuel. Il était en entrevue avec Pierre Poilievre, donc tu sais, j'ai écouté l'entrevue, j'ai trouvé ça pertinent parce que c'était Pierre Poilievre. Mais ça, Olivier Primeau me parle de politique, ça, à moi, ça m'intéresse pas. Il me parle d'affaires, ça va m'intéresser. Il me parle de politique, ça m'intéresse pas.
Il parle
pas du tout.
Beaucoup de politique sur ses réseaux sociaux, ouais. Olivier Primeau, ouais. Beaucoup, ouais, beaucoup.
Ouais. Ben, c'est sa future carrière, là. Je pense, oui, qu'il est en train, oui, de se préparer pour ça. Mais chez les jeunes, 40 % des 18 à 34 ans s'informent uniquement avec des influenceurs. Je trouve ça super.
Ben, tu sais, moi, je me rappelle à l'époque, mes filles, ça m'avait inquiété d'ailleurs là, de voir à quel point elles avaient suivi le procès Johnny Depp et Amber Heard sur TikTok. Là, j'étais là, les filles, il faut qu'on se parle. faut qu'on se parle. Parce que là, puis c'est là que je leur ai expliqué le principe des chambres d'écho et de l'algorithme. Là, on retourne quand même quelques années en arrière, là, cette histoire-là. Là.
Oui, oui.
Puis je sais que maintenant, elles sont plus, critiques, mettons, puis ils vont faire exprès pour aller chercher au moins d'autres sources. Là. Mais l'algorithme et les chambres d'écho, c'est quelque chose qui est très, ouais, très, très, ouais, dangereux aussi dans la façon qu'on, avec laquelle on s'informe.
On a eu un bel exemple de ça, moi, Jeff puis Max, hier matin. Tu sais, hier matin, on avait deux informations, là. De source crédible, c'était une femme qui était responsable de la tuerie de masse,
ouais,
qui avait lieu dans l'Ouest canadien. Puis il y a d'autres sites qui rapportaient que c'était une personne trans.
Ouais.
Puis là, ben là, ça a soulevé la grogne en disant « Dites-le que c'est une personne trans! » Moi, à partir du moment où j'ai su par les autorités que c'était une personne trans, j'ai commencé à dire que c'était une personne trans.
Mais pareil.
Hier après-midi, là, j'étais sur les réseaux sociaux, puis l'algorithme fait en sorte que tu avais l'impression que toutes les trans de la planète étaient des meurtriers en série.
Potentiel, oui, c'est ça, des bombes à retardement, là.
Fait qu'on est allé chercher les chiffres.
Oui,
puis
je les ai vus.
Je t'ai arrondi.
Oui.
C'est 98 % des auteurs...
De tuerie
de masse aux États-Unis entre 1996 et 2024. Donc, 98 % c'est des gars. 2 %, mettons, c'est... 1 point quelques % c'est des filles, puis 0.5% c'est des transgenres. Mais hier après-midi, là, tu m'avais dit, Yann, tu te fies à aujourd'hui, là, c'est qui sont les tueurs de masse à grandeur de la planète? C'était les trans, en raison de l'algorithme.
Oui, et ça m'inquiète aussi, parce que moi aussi, je l'ai reçu, cette pression-là, là, de certains auditeurs. Là. Dites-le, t'as peur, pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer à l'histoire au final?
Absolument.
À part
rien.
Pousser un narratif. Tu sais, ça, c'est comme, dites-le là, qu'il y a des morts, là, peu importe, c'est quoi. Pourquoi? C'est quoi la course à faire mourir du monde, là? Ça va changer quoi quand d'attendre la version des autorités de dire il y a bel et bien des morts? T'sais, là, je te parle pas juste de ça, là, je te parle en général. Mais des fois, le public voudrait qu'on dise des affaires avant même qu'elles soient confirmées, puis après ça, on nous accuse de fake news, puis on nous accuse de pas être crédible.
Ouais. Mais c'est Maxime Bernier qui est parti avec ça. Maxime Bernier est parti sur une couille en disant « c'est un trans ». Il y avait de l'information.
Ça sert un narratif pour Maxime Bernier.
Pour là, il y avait raison, c'est une personne trans qui était responsable de ça. Mais juste vous dire que si vous avez une horloge chez vous, là, puis il n'y a pas de batterie, là. Elle donne l'heure exacte 2 fois par jour.
Tout à fait.
Fait que, tu sais, si on sort les citations où il était dans le tort, tu vas en avoir pas mal plus que des citations ou des affirmations qui avaient raison. Mais des fois, il faut faire attention. Puis de voir que les gens s'informent uniquement sur les réseaux sociaux, c'est dangereux.
Surtout quand tu sais qu'il n'y a pas de médias d'information traditionnels sur les réseaux sociaux au Canada. Ne l'oublions pas.
Une chose qui est intéressante, par exemple, c'est le travail que tu as fait avec tes filles, Kat. Je trouve, c'est que les jeunes ont cet intérêt-là à développer leur esprit critique. Ça, je trouve ça intéressant pour les médias sociaux, mais en autant que on les sensibilise bien au fait qu'il faut que tu regardes les deux côtés de la médaille, puis il faut que tu t'informes adéquatement aussi auprès de médias traditionnels. Mais moi, j'aime ça, le fait que nos jeunes veulent développer leur esprit critique, par exemple. Je trouve que c'est un point positif des médias sociaux.
Bien, moi, je les encourage vraiment beaucoup à faire ça, puis à être critique de tout, là. D'être critique de moi, d'être critique de mes position à moi aussi.
Ah, clairement.
Ostinons-nous, tu sais, puis parlons-en parce que c'est de cette façon-là qu'on va évoluer. Puis faites-vous pas remplir par n'importe quoi. Non. Posez des questions, poussez votre réflexion, faites-vous pas enfiroper. Puis bon, ça vient avec des côtés un petit peu plus difficiles à gérer d'un point de vue scolaire par moment,
mais c'est correct.
Mais moi, je trouve ça beau, tu sais.
Bien, parce que je suis certain que t'es comme moi. Moi, je parle énormément de politique avec mes deux gars.
Full.
Et je trouve que... ils ont un esprit critique très développé, sont capables bien considérer les zones grises, pas tomber dans les extrêmes. Mon plus vieux de secondaire 4, le cours éthique et culture, citoyenneté québécoise, puis il y a énormément de textes d'argumentaire à produire, à analyser, puis il pète des scores parce que son cerveau se développe comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
Moi, la seule chose que j'essaie d'inculquer à mes filles, là, c'est que chaque interlocuteur a un intérêt et a un billet.
Oui.
Peu importe.
Ben oui, puis moi, je me mets là-dedans.
Ben
je dis, quand papa parle à la radio, il y a un billet, là.
Ben, on n'a pas le choix. Ben, pour plein de raisons, puis là, je ne veux pas tomber non plus dans les théories de la communication, d'agenda setting, puis de gatekeeping, là, tu sais. Mais ça, c'est des grandes théories de la communication qui ont été maintes fois prouvées et expliquées. Ceci étant dit, de par le temps qu'on a pour discuter de quelque chose, tu sais, et plein de petits éléments, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Est-ce qu'on va parler d'actualité internationale ou on va parler d'actualité locale? Pour essayer de garder nos gens à l'écoute et tout ça. Fait que de jamais, jamais oublier que la vraie, vraie, vraie neutralité n'existe pas et que quand il est question, puis tu sais, c'est beaucoup dans le temps de la pandémie, notamment qu'on a parlé de ça, les filles et moi, là, c'était tout le monde nourrit sa base.
Oui.
Fais attention, sois critique, puis comprends que ça soit, peu importe à quel bout du spectre tu te trouves, chacun nourrit sa base puis va pousser un narratif qui va l'avantager lui. Fait que la vérité n'est jamais d'un bord, est en quelque part entre les deux. Puis tout le monde en détient un peu. Fait que soit ouvert, soit critique, mais comprends. Puis il y avait une affaire aussi, j'ai oublié le nom du documentaire sur Netflix, là, ce qui était question des impacts des réseaux sociaux sur nos jeunes. Là.
Bien, l'importance de diversifier ses sources, puis le fait que tout est sur Internet maintenant, l'algorithme vient nous jouer des tours.
Oui, c'est ça, en disant quand c'est gratuit, là... C'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit, tu sais. If you're not at the table, you're on the menu. C'était ce que Mark Carney a dit à Davos. Si tu n'es pas à la table, t'es au menu.
La journaliste en toi voulait nous parler du pont Gordie Howe et du pont Ambassador. Et t'avais des liens à faire avec le troisième lien Québec-Lévis.
Ben écoute, je sais qu'on peut pas tout à fait bien comparer les choses, mais quand même. Pourquoi on peut pas tout à fait bien les comparer? C'est qu'il faut comprendre que les ponts Ambassador puis Gordie Howe, qui relient l'Ontario avec le Michigan, ce sont des liens transfrontaliers. Fait qu'on s'entend qu'en partant, c'est pas tout à fait le même genre
d'installation.
D'installation, effectivement, parce que tu as des postes frontaliers, tu as des postes de péage et tout ça, mais c'est pas non plus le même type de transport. Tu sais, je suis pas sûre qu'il y ait ben des gens du Michigan qui traversent travailler en Ontario, comme c'est notre cas ici. Fait que je sais qu'on va prendre, tu sais, des pommes avec des pommes, mais j'étais quand même curieuse de voir, OK, attends un peu, le gouvernement fédéral a financé entièrement un ouvrage qui va servir à relier les deux pays. Là, j'étais curieuse de savoir un peu comment ça se passe. Puis j'étais curieuse des chiffres d'achalandage. Puis c'est des reportages de Radio-Canada, notamment une chronique de Chantal Hébert qui m'avait allumée un peu là-dessus. Fait que j'ai voulu aller chercher des chiffres. Le pont Ambassador, OK, qui est déjà là. Là, puis il y a un pont-tunnel aussi. Il y a un tunnel là, dans ce secteur-là qui s'appelle le Détroit-Windsor Tunnel. J'étais curieuse de savoir il y avait combien de voitures ou de camions qui circulaient là-dessus, parce que là, on s'est dit d'un point de vue économique, sécurité économique, étant donné que les autres infrastructures sont un peu vieillissantes, on aurait besoin d'avoir un troisième lien, vous me voyez venir. Bien, écoutez, le pont Ambassador, c'est 17 000 traversées par jour et le tunnel, c'est 10 000 traversées par jour. Je vous fais des chiffres très ronds. Fait qu'on va dire 27 000 traversées par jour. Quand on vient ici chercher nos ponts à nous, pour ce qui est du pont Pierre-Laporte, c'est 127 000 traversées par jour. Je vous rappelle que la capacité maximale, c'était 90 000.
Ouais.
Et le pont de Québec, c'est à peu près 23 000 traversées par jour. Là, on parle de commute, là, t'sais, des gens qui voyagent d'un côté et de l'autre. Mm-hmm. Là, je comprends qu'on ne traverse pas un pays avec les ponts de Québec mm-hmm. et le pont Pierre-Laporte. Mais d'un point de vue sécurité économique, c'était jugé important étant donné que les autres infrastructures deviennent vieillissantes, qu'on ait besoin d'un troisième lien payé entièrement par le fédéral au coût final de 6,4 milliards pour relier l'État du Michigan à la province de l'Ontario. Fait que là, t'sais, je pense que juste de vous donner ces chiffres, là, vous faites vous-même le chemin dans votre tête.
J'adore.
Fait que ça m'a quand même fait me questionner à dire, ah, ben, gardons. Puis là, la chicane là, de Donald Trump cette semaine, là, qui n'était pas content puis qui a dit qu'il va arrêter ça, est-ce qu'on pourrait juste lui rejouer le tape de 2017 quand il était aux côtés de Justin Trudeau ou est-ce qu'il est donc bien content de cette entente-là?
Il est heureux.
Que c'était lui qui l'avait entériné?
Mais les choses changent, Catherine. Les gens peuvent changer d'idée.
Rocky disait
quand
ça,
quand c'est les avant. C'est moi, j'ai changé. Yes. Alors, tout le monde peut changer.
On essaie de se rappeler que signer l'OCM
ouais.
aussi.
Oui, c'est ouais, ça. C'est ouais, ça. Il y a eu une belle défaite hier, justement, au Congrès. Oui. Mais bref, je voulais juste vous donner ces chiffres-là. On a des infrastructures vieillissantes qui ont dépassé leur capacité ici, qui transportent beaucoup, beaucoup plus. Et l'argument de sécurité économique est grandement utilisé pour la nécessité d'un troisième lien ici dans la région. Fait que c'est ça, je dis ça, je dis rien.
Catherine Bachand, ça a été un plaisir.
Merci
tu reviens quand tu veux, on t'apprécie. Ben,
mais moi, j'aime ça venir.
T'es tellement en demande que là, on ne sait plus trop quelle est notre place dans ton cœur.
Hey! Ouais. Jeff, ça a pris combien de temps avant que
je te dise
oui? J'aimerais
dire qu'on a une très grande place. J'avais pas fini mon texto qui répondait oui.
Tu dirais, ah bon, voilà. C'est parfait. C'est ça. Parfait. Merci, Catherine.
Merci. Bonne journée, les gars.
Sur la route, mon ami.
En 4 Sud, sortie vers l'échangeur boulevard Laurier, c'est partiellement entravé en raison d'une panne. C'est toujours problématique sur Capitale Ouest entre Beau-Royal et Laurentienne. Capitale Est, des problèmes toujours hauteur Robert Bourassa aussi. Entre Henri IV-Sud et Duplessis sur la 40 Est, il y a toujours un ralentissement aussi. Secteur des ponts, un peu d'attente pour la Porte-Nord, mais c'est plus si pire.
Au-dessus de la grande région de Québec, il y a un peu de soleil. Il y a des nuages quand même encore assez gris. Ça devrait s'estomper dans les prochaines heures sur l'environnement à Canada, autour de -9 comme température ressentie avec le vent. Ciel dégagé pour cet après-midi. Ce soir, ciel dégagé. Minimum de -12 degrés. Demain, vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de -5. Samedi, de la neige intermittente, maximum de -5. Et dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de -4 degrés. Il est 8h23. On fait une courte pause et on vient.
Le Pit Stop avec Denis Gravel.